Jeudi dernier, il y avait une rencontre de prière des églises évangéliques de la région qui se passait chez nos frères de l'église de Béligny. Et le thème de ce soir-là, c'était « En route avec Dieu parce qu'il réunit ». Et je pensais que c'était une introduction à ce que nous allons pouvoir dire ce matin. Alors, je vous affiche un verset qui n'est pas nouveau. On l'entend souvent citer ce verset. Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Un verset donc bien connu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce qu'il veut dire ? Comme l'oignon fait la soupe ? Le rassemblement de membres est déjà un bout de corps de Christ, oui. Ça ne vous inspire pas plus que ça. Bon.
La preuve que le Seigneur est là, c'est qu'il y a des personnes qui se réunissent en son nom, donc ce qui atteste qu'il est là.
D'accord. J'ai le regret de vous dire... Non, on verra après. Je vous en affiche un autre. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Traduction du semeur. Mais il n'y a pas de grosse différence avec les autres traductions. Alors, même exercice que tout à l'heure, qu'est-ce que cela veut dire ? Oui. C'est l'accord qui semble important. Je suis d'accord. Ceci dit, j'attire votre attention sur le fait qu'on pourrait tirer de ce verset une fausse promesse du Seigneur. Et du coup, être déçu. Combien de chrétiens se sont mis d'accord pour prier avant une guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Combien de chrétiens se sont mis d'accord pour prier pour que cette guerre n'ait pas lieu ? Et elle a eu lieu quand même. Alors c'est que le Seigneur ne tient pas ses promesses ? Si nous prenons pour une promesse du Seigneur dans ce cadre-là. Alors en fait, les deux versets que je vous ai lus, que je vous ai donné, ils sont côte à côte dans la Bible. En fait, le premier que j'ai lu est après le deuxième. Il semble parler de deux choses différentes, et pourtant ils sont liés, ils font partie du même texte de l'Écriture qui est dans Matthieu 18. Et Matthieu 18, nous allons essayer de voir un petit peu comment ce texte est construit pour pouvoir répondre aux questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'est-à-dire que veulent dire ces versets. Alors Matthieu 18, il est construit en trois parties, si vous regardez de quoi le Seigneur parle. Du verset 1 à 14, il est question de la valeur des enfants. Ça commence par « Qui est le plus grand ?» Et Jésus qui dit « Le plus grand, c'est le plus petit. » Faites attention aux plus petits d'entre vous. Et le Seigneur insiste sur ce thème qui revient pendant 14 versets. Ensuite, au verset 15, on change complètement de thème, puisque ce verset 15 commence par « Si ton frère a péché ». Et il se termine au verset 21, 22, avec Pierre qui pose une question à Jésus et qui dit « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il a péché contre moi ?» Et le verset 22, c'est la réponse de Jésus. Et puis après, ce thème du pardon que Pierre que la question de Pierre a soulevé va servir à aborder un autre thème qui est qu'il ne faut pas refuser de pardonner. Voilà. Et les versets que je vous ai lus, ils se placent ici. Dans cette section que j'appelle « Si ton frère a péché », et nous allons la voir d'un peu plus près. Je vous invite déjà à la lire, tout simplement. Donc Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 22. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas sept fois, mais 70 fois sept fois. » Ça fait 490. Donc, pour savoir ce que veulent dire les deux versets dont je vous parlais tout à l'heure, que vous avez reconnus, qui sont ici et qui sont liés par un car, il faut savoir de quoi parle ce passage. Nous avons vu que l'idée qui revient dans ce passage, au début, à la fin, c'est l'idée un frère ou une sœur. Ça arrive aux sœurs aussi, hein, parfois. Oui, c'est plus rare. Un frère ou une sœur a péché contre moi, que dois-je faire ? Ce thème nous permet donc de comprendre où commence et où finit le texte. Dans la Bible, en grec, il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de titre. Tout est compact et lié. Donc pour se repérer, on ne peut se pencher que sur les thèmes qui sont abordés. Alors, on va étudier la structure interne de ce texte. On voit que le même thème est abordé sous deux angles. Si ton frère a péché... Et puis ensuite, Pierre revient sur la question, combien de fois dois-je pardonner quand mon frère a péché ? Et la première réponse est construite avec, il faut aller lui parler. S'il t'écoute, c'est bon. S'il ne t'écoute pas, tu y retournes. S'il n'écoute pas ceux qui viennent, voilà. Donc, un texte avec... Si, alors, sinon, alors, sinon, alors, sinon, alors. Voilà, c'est un texte très logique, en fait. Et puis il y a un verset redoutable, verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre, du verbe lier, hein, c'est pas le verbe lire. Hein, et tout ce que vous délirez, c'est pas le verbe délirer, c'est le verbe délier. Hein, un verset que nous verrons tout à l'heure. Alors pourquoi faire cet effort de regarder la structure? Tout ça pour comprendre de quoi parlent ces deux versets. Alors première chose, que devons-nous faire quand il y a conflit? Jésus donne des instructions à ses disciples sur la façon dont ils doivent se conduire dans l'Église lorsqu'il ne sera plus là. Et particulièrement dans ce texte, il s'occupe de la gestion des conflits. Car des conflits dans l'Église, je vous dis un secret, il y en a parfois. Et Jésus le sait à l'avance qu'il y en aura. Même si les gens dans l'Église sont des chrétiens. Mais les chrétiens, comme vous le savez, c'est des gens comme vous et moi. Donc des gens imparfaits. Donc que faire quand il y a conflit? Cette situation doit se résoudre. Déjà, Jésus ne dit pas, si ton frère a péché, laisse tomber, t'en occupe pas, ça lui passera. Il dit, si ton frère a péché, il faut résoudre ça de façon graduelle. Celui qui prend l'initiative doit suivre une procédure rigoureuse. Le but de cette procédure, c'est de trouver un accord. Et pour trouver un accord, il y a plusieurs étapes à franchir. La dernière solution, le rejet, n'étant vraiment que l'ultime. Ne laisse pas pourrir la situation, dit Jésus. Va voir ton frère. Et fais-lui constater sa faute. Vas-y seul, ne fais pas courir de bruit. Ne dis pas à d'autres si tu peux l'éviter. Et là, je me dis, est-ce que c'est comme ça que nous réagissons? Est-ce que c'est pas plutôt, ah, tu sais pas ce qu'il m'a dit, hein, ça m'a fait mal. Non. Est-ce que ce n'est pas en bavardant que nous réagissons en bavardant à droite et à gauche? Alors, si ton frère a péché, va le voir et reprends-le seul à seul. Ensuite, s'il t'écoute, eh bien voilà, l'harmonie est restaurée. Tu as gagné ton frère, dit Jésus. Évidemment, il peut arriver qu'il ne t'écoute pas. Alors s'il ne t'écoute pas, là il faut te faire aider. Il faut te faire aider, mais là aussi, pas par la rumeur publique, par une ou deux personnes, un ou deux témoins, qui seront des personnes de confiance et qui elles-mêmes vont partager un peu le secret. C'est aussi des témoins qui seront départagés. Peut-être qui a raison et qui a tort, parce que ton frère, il a peut-être péché, pas du tout, c'est peut-être toi qui es en faute. Malheureusement, si ça ne marche pas, c'est à l'Église entière d'être témoin, mais seulement à ce moment-là, après avoir épuisé les deux premiers stades. L'Église entière doit amener la personne à changer de vie, à sortir de son péché, si ton frère a péché. Est-ce que nous sommes capables d'agir ainsi? Et après, on arrive dans du très grave. S'il refuse d'écouter l'Église, il s'agit d'une personne qui persiste dans un péché qui est une atteinte à un ou plusieurs frères de l'Église. Si aucune conciliation n'est possible, alors dit Jésus qu'il soit pour toi comme un païen. C'est quoi un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Donc il va falloir l'évangéliser, cet homme, ou à la rigueur cette femme. Il va falloir lui parler du Seigneur. Mais aussi, c'est celui qui ne fait plus partie de l'Église. La communion est rompue, il est redevenu comme quelqu'un du dehors. C'est une solution, la pire, qui ne vient que lorsque toute tentative de conciliation a été rejetée. Alors, quand on en est là, les disciples, les apôtres, ont cette remarque de Jésus. Si ça ne marche pas, c'est un verset difficile. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui est exclu sur terre, donc le contexte, c'est qu'il est question de quelqu'un qui est exclu de l'Église, qui n'est plus considéré comme un chrétien. Et Jésus dit à ses apôtres, ce que vous exclurez sur la terre sera aussi exclu dans le ciel. Je pense que cette phrase, contrairement un peu à tout le reste du texte, n'est applicable qu'aux apôtres, qu'à ceux qui ont un pouvoir de lier et délier. Jésus avait déjà parlé de ce pouvoir en le confiant à Pierre lui-même. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 16, et au verset 19. Donc, deux chapitres avant, Jésus dit cela à Pierre, qu'il aura le pouvoir de lier et de délier. Et on voit dans le livre des Actes que les apôtres ont cette autorité apostolique qu'ils vont utiliser, par exemple, pour juger Ananias et Saphira, en acte 5, pour trancher les questions de la circoncision des non-juifs, en acte 15, pour sanctionner un membre de l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 5. Mais rien ne nous permet de penser qu'un tel pouvoir s'est poursuivi par la suite. Et jamais on vous trouve, dans les épîtres des apôtres, conseiller à un ancien ou à un diacre d'utiliser un tel pouvoir. Je vous propose de penser qu'il s'agit d'un pouvoir, d'une prérogative que Jésus a conféré temporairement aux premiers apôtres pour que le Nouveau Testament, qui n'était pas encore écrit, puisse se construire, pour que l'Église, qui n'était pas encore formée, puisse se construire dans la discipline. Et voilà, on arrive au premier des deux versets que je vous proposais tout à l'heure. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, textuellement, c'est dans une affaire. Pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. On comprend très bien ce que ça veut dire dans ce texte. Vous aviez deux frères qui étaient désunis, qui n'étaient pas d'accord. Maintenant, ils sont d'accord. Ils se sont mis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exposer leur nouvel accord, leur nouvelle communion à leur Père Céleste. Et c'est ce, le Père les exaucera, leur restaurera leur communion. Il n'est pas du tout la question de deux personnes qui se mettent d'accord pour prier, pour qu'il n'y ait pas la guerre. Il est question là de deux personnes qui étaient fâchées et qui deviennent d'accord. Et la promesse du Père, c'est cet accord-là. Moi, je vais le fortifier. Moi, je vais le restaurer. Moi, je vais le rendre possible. Voilà ce que veut dire ce verset. Il ne faut rien en tirer de plus, rien en tirer de moins. Ce verset nous dit, Jésus nous dit, c'est une promesse du Père. Si vous étiez fâchés, si vous étiez des frères et sœurs fâchés, mon Père a le pouvoir de vous réconcilier, de restaurer l'unité au milieu de vous. Et la preuve, c'est le deuxième verset qui suit et qui commence par « car ». Donc les deux versets sont liés. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est possible, dit Jésus, « car là où deux ou trois se trouvent réunis, Ils étaient désunis, ils se trouvent maintenant réunis. En mon nom, bien sûr, c'est en tant que frère et sœur que tout cela arrive. Je suis au milieu d'eux. Qui restaure l'unité? Qui permet de retrouver l'harmonie qui avait été brisée? C'est le Seigneur lui-même. Et ça, c'est une promesse. Une promesse que si nous faisons l'effort de nous réconcilier avec quelqu'un qui a péché contre nous, le Seigneur lui-même interviendra pour que cette union soit forte, pour que cette union soit vraiment une union de frères et de sœurs. Et voilà notre verset d'introduction qui prend un autre thème, qui prend une autre idée. Il n'est pas question là que quand nous sommes groupés ici pour le culte, que Jésus se trouve au milieu de nous. Ce n'est pas une idée fausse, de toute façon. Il y a d'autres versets qui nous le disent. « Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, au moment de l'ascension, jusqu'à la fin du monde. » Mais ce n'est pas vraiment le sens de ce verset là où il est. Alors, ce n'est pas très très grave, puisque d'autres versets nous donnent cette idée-là. Mais je crois qu'il est quand même important de savoir encore ce que veut dire ce verset. Alors, on arrive déjà à la conclusion. Une première conclusion, c'est qu'il faut toujours se méfier des morceaux choisis. C'est-à-dire que quand vous avez un verset tout seul, il faut toujours lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Parce qu'un verset tout seul, il est tentant de lui donner l'interprétation qu'on souhaite lui donner. Donc, c'est une idée que souvent dans les groupes de maison, quand je prépare quelque chose, ceux qui vont dans mon groupe, ils le savent. Des fois, je me gourre dans les références d'un ou deux versets. Hein. Et en général, je leur dis, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, quand je vous donne une référence, il faut toujours lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc, vous aurez forcément ce que je veux vous dire au milieu. Donc, se méfier des morceaux choisis. Le deuxième point, quand même important dans ce qu'on a vu, c'est savoir gérer les conflits. Ne pas laisser pourrir les situations. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous a dit une parole, a eu une attitude, qui après fait que vous n'avez plus la liberté que vous aviez avant avec ce frère ou avec cette sœur. Jésus nous dit, va le voir. Parle-lui-en. Résous ça. Ne laisse pas un germe d'incompréhension, d'animosité se passer. Va le voir. Et puis, il y a tout un processus, si vraiment les choses sont graves et qu'il ne veut pas t'entendre, mais d'abord, va le voir. Et le troisième point, c'est que si vous vous réconciliez, ce qui est le but, c'est grâce au Père Céleste et grâce à Christ qui est celui qui nous unit, qui nous réunit. Christ est le centre même de la réconciliation. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous sommes tous là ce matin? Est-ce que nous pratiquons le même sport? Est-ce que nous sommes supporters de la même équipe? Est-ce que nous écoutons la même musique? Est-ce que nous sommes de la même classe? Hein, c'est bientôt les conscrits, donc... Non, rien de tout cela. Qu'est-ce qui nous unit? Si ce n'est le Christ, si ce n'est Jésus. Eh bien, dans les conflits aussi, il est capable de nous unir. Merci. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est vaste, parce qu'elle nous enrichit, parce qu'elle nous permet de mieux te comprendre. Et donne-nous de savoir la comprendre. Et pour cela, de ne pas la saucissonner en petits bouts, mais de savoir comprendre tout ton dessein pour nous. Donne-nous de nous aimer les uns les autres, et lorsqu'hélas il y a une fêlure dans cet amour, donne-nous de savoir résoudre cela comme tu nous le demandes. Donne-nous aussi de savoir reconnaître que tout ce qui nous unit vient de toi, que tu es le centre même de tout ce qui peut nous attirer les uns vers les autres. Et nous voulons te remercier pour cela. Quand tu reviendras, tu habiteras au milieu de nous, nous serons tous réunis autour de toi. Alors nous serons parfaits, nous serons sans défaut, alors il n'y aura plus besoin de trouver des moyens de réconciliation. Mais maintenant, en ce temps où nous sommes sur la terre encore imparfaits, nous avons bien besoin de toi, Seigneur, pour nous unir. Et nous te remercions de le faire. Amen.